Bonus.
Trax.
Et bienvenue dans le Parler du Z, l'émission de pop culture diffusée sur Studio Zef à Blois, Blabilan. Et aujourd'hui, on est en live depuis la guinguette de Blois.
À l'occasion du
festival de la guinguette. Donc c'est la guinguette à Louisette. Voilà.
On rappelle qu'on est un podcast de province, quoi. On fait des lives depuis la guinguette.
Non, on peut faire croire qu'on est depuis la Seine.
Ah, c'est vrai.
Sur la mer. Au Touquet. Bon, on fait un petit tour de table quand même. Histoire de.
Vois,
même si l'équipe elle commence vraiment à s'entériner et tout.
Je crois qu'on t'entend pas, Louisa.
C'est vrai, tu m'entends pas?
Non, c'est bon.
Non,
on l'entend très bien.
Tu veux déjà que je me
dise que toi.
C'était un souhait que j'exprimais.
Donc, on a toujours Marie, la tavernière.
Salut tout le monde. C'est génial, il fait beau, il y a du soleil.
Et Claire?
Et oui, je suis toujours là. Avec mon fameux oui pour me présenter.
Ah oui, on a dit que Célia, tu devais faire le cri de Xena.
C'est parti.
Oui. C'est pas mal. Et Gaët,
alors moi je sais pas faire ça. Non. Je vais juste dire bonjour.
C'est très protocolaire, excuse-moi.
Et Steven.
Et bien sûr, et Louise aussi.
Exact.
Oui.
Exact.
Indéboulonnable.
Juste pour faire une petite présentation, en fait, on est là donc sur la guinguette de Blois, l'occasion du festival.
Ouais.
Ah, donc les concerts, les hostilités, elles commencent dès maintenant en fait avec nous. Mais les concerts commencent à 19h30. Notamment avec, et j'avais préparé les groupes et voilà.
Et pendant ce temps-là, on meuble, donc c'est d'aujourd'hui jusqu'à samedi, c'est retransmis
gratuit,
sur Studio Zef 91.10 à Blois, bien sûr.
Bah, c'est la soirée un peu électro, c'est ça. Il y a du disco punk, il y a du swing, il y a du.
Il y a tout ce qu'on aime.
Alors, ça, il y a QTA à 19h30, 20h35, il y a La Muse Girl. Et 21h55, 80. Voilà. Et après, il y a Mylène Farmer, mais ça, c'est un secret.
Oh, yes. J'allais pas le dire. C'est une surprise.
Bon, en fait, notre thème...
Est-ce qu'on a un thème, vraiment?
Ouais.
Bah, dites-nous, nous, on attend de savoir. Hein.
Bah, ouais, hein. C'est vrai qu'on vous a dit, vous n'avez pas de devoir aujourd'hui. Vous n'avez pas de devoir à faire. Ouais,
on a un petit peu nous, on bossé débarque, quand même. On ne sait pas.
Ouais.
Eh bien, le thème, c'est la musique, parce qu'on est des gens originaux.
Oh là là,
il y a des concerts de musique, voilà. On n'a qu'à faire la musique, voilà.
En même temps, est-ce qu'on avait déjà vraiment parlé vraiment de musique dans cette émission?
Non.
Non, pas trop.
Est-ce qu'on a déjà parlé de quoi que ce soit?
Non.
On ne sait pas trop.
Qui n'a pas de question à poser?
Je pense que pour la saison 4, on fera genre plus large, le fun, le rire.
Le fun en 4 parties.
La dernière fois, on a fait la dépression, donc le rire, ce serait peut-être pas mal.
Ah ouais,
donc, avec Louise, on a préparé une espèce de gros jeu sur l'émission. Il y aura des jeux un peu rapides, des jeux un peu plus longs sur lesquels on peut prendre notre temps pour discuter, tout ça autour de la musique et surtout de la musique depuis nos esprits déréglés, donc vous verrez bien. Vous verrez bien.
On
peut dire tout de suite que toute l'émission est un jeu, à part le début, on va faire une petite intro, un petit warm-up comme dit Louise. J'ai toujours pas compris vraiment ce que ça voulait dire, mais...
C'est le grand réchauffement.
Voilà.
Voilà.
Mais toute l'émission est un jeu, donc on a Marie et Claire qui sont en équipe, on a décidé.
C'est l'équipe MC,
mais oui, c'est la gueule.
Et Célia et Gaëtan qui sont dans une autre équipe.
Oui.
Exactement. Qui là n'a pas de nom.
Non.
Parce qu'en fait, ils sont trop nuls pour avoir
juste
ça, on va gagner.
C'est l'équipe qui va gagner.
Et à gagner...
Juste les gagnants.
Voilà, merci.
L'équipe gagnante remporte un pins.
Un pins Studio Zef, bien sûr.
Voilà, voilà, on va dire le même que j'ai déjà sur mon t-shirt.
Oui, on a donné 150. Donc
Mais alors juste, là, vous avez dit que c'est une émission sur la musique.
Ouais.
On va parler de donc, la musique, quoi. Même pas la musique dans la pop culture. La musique.
On avait dit la musique, Louise, elle est venue avec des questions. Parce qu'il n'y avait pas de musique dedans.
Ah ouais, non. Je me suis rendu compte, je suis en fait, je parle pas du tout de musique.
Oui, bah comme d'habitude.
Un indice, il y aura du Diplodocus.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement bien comme musique. Bah, quoi.
Il y avait peut-être de la musique
c'est connu. Hein. Les dinosaures étaient des grands musiciens.
Ils connaissaient tous leur gamme.
Est-ce qu'on lance le warm-up un peu?
Bah, carrément. Ah, l'idée pour les auditeurs, c'était de faire un petit tour de par les BO qui nous ont assez inspirés. Et ça a été assez dur. En fait, chacun, on devait choisir une BO de film qui, pour nous, nous inspire. Et en tout cas, voilà. Tu repars sur une île déserte, tu vois. Par exemple, Célia, si tu devais partir sur une île déserte avec une BO de film, ce serait laquelle?
Bah, du coup, moi j'ai choisi la BO de Billy Elliot parce que c'est un de mes films préférés.
Ok.
Donc voilà, pas très original, mais.
Très inspirant quand même.
Ouais, moi j'aime beaucoup ce film. Et voilà, Billy Elliot, du coup je crois qu'on a.
Ouais, on peut se l'écouter, ouais.
Ouais, enfin, c'est le son qui est au début du film.
C'est
tout début du film.
C'est ça. Cosmic Dancer.
C'est ça. Est-ce qu'on peut chanter en même temps?
Oui, vas-y,
bien sûr.
Non, pas toi.
Tu peux penser à ma voix de Castafiore. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon?
Et donc cette musique apparaît au tout début du film quand on ne connaît pas encore donc, le personnage de Billy Elliot, qui est donc un jeune garçon qu'on va découvrir qui adore danser, qui adore la danse et qui va découvrir la danse classique. Et qui, voilà. Je peux spoiler, hein, je pense c'est un film de 2000, en disant que...
Ouais, alors, allez. Les licences que vous vous prenez...
Puis, c'est voilà. Un peu dans le synopsis du film. Hein,
oui, façon, oui, on le voit dans la bande-annonce, ouais, que va. Voilà, il finit danseur classique et tout ça. Mais c'est vrai qu'au tout début du film, donc, on entend cette musique, et donc on ne sait pas encore qui est ce petit garçon, et on le voit juste rentrer dans sa chambre, qu'il partage avec son grand frère, et en fait, il utilise la... comment on appelle ça? Ah, je trouve mon... les vinyles quoi, de son frère pour écouter de la musique. C'est des vinyles, je crois. Enfin, ouais, je sais plus, c'est, ça se passe dans les années 80, c'est 1984, ça situe l'histoire de Billy Elliot. Et en fait, il pique du coup le truc de son frère pour écouter ça. Il met son casque sur les oreilles, il se met sur son lit, il saute sur son lit. Donc en fait, nous en tant que spectateurs, on est comme lui en train d'entendre la musique, sauf qu'en fait, personne d'autre dans la maison l'entend. Il n'y a que lui qui l'entend en sautant sur son lit. On voit qu'il est hyper heureux quand il a cette musique. Et dès qu'il entend quelqu'un qui rentre, je sais plus si c'est son père ou son frère justement qui débarque. Vite, vite, il cache tout, il enlève tout, il s'assoit sur son lit, il ne s'est rien passé, parce que voilà, c'est un peu une passion secrète au départ, parce que c'est pas trop accepté dans sa famille cette histoire de musique. Il est dans une famille d'ouvriers, la vie elle est dure, et donc il n'y a pas trop de place, on va dire, pour le côté artistique. Okay. Et moi, une autre musique qui me plaît beaucoup dans cette BO, puisqu'on parlait de BO, donc il y a plusieurs musiques dans une BO, c'était quand il y a son grand frère justement qui donc est... Parce qu'on est au moment, donc pour situer un petit peu, on est au moment des grandes grèves de mineurs sous Thatcher. Ouais. Et donc il y a les grandes grèves, évidemment. Et donc son père et son frère font partie des grévistes. Donc la vie est encore plus dure quand ils sont grévistes, évidemment, puisqu'ils ne gagnent plus d'argent. Et son frère est extrêmement engagé. Et il y a une autre donc, chanson qui est super, que tout le monde connaît, qui est donc qui est London Calling des Clash. Ouais. Et donc il y a cette musique qui passe. Et en même temps, la scène, c'est son frère qui court dans tout le village ouvrier, poursuivi par des centaines de policiers. Et donc il y a des côtés assez comiques parce qu'il traverse des maisons, une petite mamie qui lui ouvre la porte pour qu'il puisse s'échapper aux flics. Enfin bon, il y a des aspects à la fois assez comiques et assez... Bon, ça finit pas très bien, il se fait arrêter. Mais, et qui est aussi... Enfin, les deux chansons, en fait, sont des chansons des années 70. Cosmic Dancer, celle qu'on a entendue, c'est 1971. Et London Calling, c'est 79. Sachant que donc, l'action du film est censée se passer en 1984. C'est, là, je trouve que les musiques dans ce film... servent vraiment à nous situer aussi dans un contexte. C'est-à-dire qu'on a des musiques qui sont vraiment de l'époque, qu'on peut imaginer que les gens écoutaient à cette époque-là, ouais. Et aussi qui vont vraiment exprimer ce que ressentent les personnages. Donc Cosmic Dancer, avec ce jeune garçon passionné par la danse, qui danse sur une chanson qui parle de la danse et de la façon dont la danse nous rend heureux de notre naissance à notre mort. Enfin, ça colle vraiment au personnage. Et London Calling, qui est donc une chanson des Clash, qui est un texte très engagé politiquement et qui justement dénonce tout ce qui s'est passé en Angleterre et en particulier l'élection de Thatcher et sa politique. Donc là aussi, une chanson qui colle à ce qu'on voit, voilà, qui colle à ce qu'on voit à l'image. Quoi. C'est pas juste une. Enfin, c'est ce que j'aime aussi dans cette BO, c'est que c'est pas juste une musique qui accompagne pour transmettre des émotions, des choses comme ça. C'est aussi une musique qui nous situe dans un contexte et qui accompagne au niveau du sens.
Mais ouais, et puis émotionnellement, t'es vraiment dans ce que ressent le personnage.
Tout
parce
à
que
fait.
Justement, ouais. C'est lié au fait que la musique, elle soit intradiégétique. C'est à ce moment-là le morceau que veut écouter le personnage et ça nous permet vraiment de nous immerger dans sa propre conscience au perso. Je trouve ça assez cool.
Ouais.
Les Gardiens de la Galaxie qui en abusent aussi beaucoup de ce procédé-là.
Ah ouais.
De la musique intradiégétique où on va se mettre de la musique dans les écouteurs et pour voir ce que le personnage, quel type de sentiment veut ressentir. Enfin, quel type de ressenti a le personnage au moment de l'action.
D'ailleurs, toute la BO, elle est immense de Gardiens de la Galaxie. Enfin, les CD font 40 titres.
Très
pop,
d'ailleurs. Okay, non mais c'est vrai que c'est cool la musique intradiégétique comme ça j'aime beaucoup.
Ouais. Et puis la deuxième que j'ai choisie n'est pas intradiégétique mais elle accompagne très bien quoi. C'est et puis voilà.
Okay. Très très bon choix.
Merci.
Ah ouais, on va le critiquer bientôt mais c'est un bon choix.
Ouais je sais.
Bah, c'est quoi je vais prendre la relève parce que moi vraiment le film, la BO pour moi qui me fait rêver, c'est celle de Good Morning England. Alors il y a un autre titre pour ce film, c'est The Boat That Rocked. Et ça se passe dans les années fin 60, début 70. Mm. Donc c'est 10 ans avant, voire même 20 ans avant Billy Elliot. Quoi.
Ouais.
Et on peut mettre DJ. c'est David Bowie.
Let's Dance.
Let's dance.
Allez.
Ouais, donc ça... Waouh, waouh. J'ai fait manger le micro.
L'enthousiasme.
Non, ouais, c'est David Bowie.
Je me souviens plus à quel moment il y a cette musique dans le film, parce que je l'ai vu il y a quelques années. Merci, Steven. Waouh. Ta version très pertinente.
En fait, le truc, c'est que c'est une BO qui est extrêmement dense. Et moi, je t'avoue que j'ai pas trop le souvenir.
Ah ouais.
Je pense que quand c'est.
En fait, le milieu.
Je raconte juste rapidement l'histoire parce qu'elle est assez cool. C'est l'histoire du radio pirate qui émettait des sons rock depuis. Voilà, la mer de la Manche, comment on dit l'océan de la Manche.
L'océan de la Manche.
La Manche.
Je suis jamais allée, c'est pour ça.
Et un bateau. Ils sont sur un bateau.
Voilà, c'est des pirates, c'est des DJ en fait. Ils sont à peu près, je crois, une dizaine. Ils sont tous assez différents. Et ils sont sur un bateau pour éviter justement la censure. Parce que les 60s, en fait, ils voyaient le rock comme l'antéchrist, contre la bien-pensance, le conformisme. Voilà. Et après arrive Thatcher, c'est encore pire. Mais. Et en fait, je trouve que cette BO, elle est incroyable. À la base, je voulais The Kings, Gaëtan.
Mais oh, oui. C'est pas grave, j'attends d'aller deux. T'as mis les deux.
Cette BO, elle reflète exactement tous les personnages qui sont complètement atypiques. Ouais. En fait, elle est aussi haut en couleur que les personnages. Ouais.
Mais elle est intradiégétique, encore une fois. C'est-à-dire qu'elle est passée, le morceau, il est passé dans la radio elle-même ou...
C'est ça,
oui.
Il y
en a certains morceaux, oui. Parce qu'il les diffuse à la radio en même temps, donc il y en a. Mais pas tous, je crois.
C'est, en plus, c'est vraiment un film. Ah, il y a Seymour Hoffman dedans, qui est hyper. En fait, ils sont tous méga charismatiques. Ouais. Cette espèce de patte anglaise, tu vois, ce flegme britannique un peu pince sans rire. Ils sont méga classe. Enfin, moi, je voulais trop être sur un bateau et vivre de vinyle et d'eau fraîche, tu vois.
Mais complètement. Et puis, pour le coup, là, on a mis Let's Dance de David Bowie, qui est peut-être déjà connu de pas mal de spectateurs avant de voir le film. Mais moi, ce que j'avais trouvé vachement cool en le voyant, c'est que ça m'a aussi fait découvrir énormément de sons du rock anglais que je connaissais absolument pas, des trucs un peu moins connus, parce qu'il y a du son quasiment en permanence dans le film et des morceaux trop bien.
Ouais. C'est trop. Franchement, je suis sortie du cinéma, j'étais là, putain, c'est un film incroyable, quoi. Mm. Vraiment. Okay. C'est feel good, si vous l'avez pas vu. Je sens que les meufs allons bien penser.
Et si je comprends bien, Louise, du coup, tu as quand même réussi à choisir une BO méta-radiophonique, du coup.
Exact.
Franchement, belle gosse.
Ouais, mais tu vois, quand je les vois s'éclater à la radio, il y a une scène que j'adore où il y a un DJ américain qui arrive sur le bateau, c'est un peu la rockstar. Et il descend sa braguette, tu vois. Bon, là, je peux pas le faire, j'ai une salopette, mais.
S'il te plaît, non.
On aurait tellement aimé.
Donc voilà, je conseille aux auditeurs, et je pense que pas mal de gens l'ont vu, mais ne serait-ce que déjà pour le son des années 60 et tout. Chaque DJ a son tempérament et c'est humain.
Et surtout celui de la matinale que personne n'a jamais vu.
Mais oui. Avec ses lunettes de Janis c'est Janis Joplin. Je fais non, il y a trop de gens, il faut que je parte.
Il est défoncé en permanence.
Ouais. Non, voilà pour ma suggestion. Quoi.
C'est bon, okay. Bravo. Pas mal. On reste dans les films anglais là pour l'instant.
C'est vrai.
À voir les autres ont choisi des films anglais aussi ou pas.
Je crois Tabernacle, je crois pas.
Je crois pas Tabernacle.
Asti,
je sais
pas.
Je vais pas continuer longtemps à essayer de faire ça parce que je ne sais pas le faire,
oui,
et ce serait gênant.
Ouais.
Mais du coup,
on adore les Québécois.
Moi j'ai choisi un film de Xavier Dolan qui s'appelle Mommy, qui est sorti en 2014 et qui est un film. Qui m'avait extrêmement émue à l'époque, et notamment pour sa BO, parce que les scènes musicales sont pour moi les plus touchantes de ce film. Donc c'est rapidement un film qui raconte l'histoire d'une maman veuve
qui a un fils qui a un TDAH assez fort et qui du coup est depuis la mort de son père, il est plutôt interné dans des centres spécifiques pour jeunes en difficulté et tout ça. Et au début du film, en fait, il se fait expulser de du dernier centre qu'il fréquentait parce que trop violent. Et donc, elle décide de le récupérer et de vivre avec lui.
Il a foutu le feu quand même à la cantine de son centre.
Voilà. Et donc, on comprend assez vite qu'effectivement, c'est un personnage que je trouve magnifique, mais qui du coup est très difficile à vivre, puisque extrêmement sensible, extrêmement malin, mais aussi extrêmement violent dans certaines de ses crises, voilà, très impulsif. Avec des troubles de l'attachement très très forts, enfin voilà. Et en fait, assez vite dans le film, va débarquer un troisième personnage qui est la voisine d'en face, qui est assez énigmatique. On saisit qu'elle aussi, elle a un peu des difficultés dans la vie, elle est assez abîmée, assez cassée. On va essayer de comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais au début, la seule façon qu'on a de le percevoir, c'est que cette femme, elle a des problèmes lourds d'élocution. Elle n'arrive pas trop à parler. Elle dit qu'elle était déjà très timide avant, mais que ça fait 2 ans qu'elle n'arrive plus trop à parler. Et donc, ça va mener à une espèce de trio qui va se former, qui va d'une certaine façon redonner de la force à la mère pour vivre avec son fils, parce qu'elle a un autre soutien adulte avec elle qui peut essayer de le gérer. Et Steve, ça va lui donner l'envie de faire mieux, parce qu'il a 2 adultes auxquels il s'identifie. Enfin, voilà. Et ça va créer une sorte de mouvement d'espoir dans le film qui va se symboliser par 2 scènes musicales qui sont incroyables. La première, c'est une scène où Steve, un soir, le premier soir où la voisine passe la soirée à la maison, il passe ce morceau culte de Céline Dion qui est « On ne change pas ». Et c'est une scène magnifique parce qu'ils se mettent à danser tous les trois dessus. Et oui, on n'a pas le son, mais du coup, on va parler du deuxième son. Mais on peut chanter celle-ci si vous voulez.
Ou pas, parce qu'on est un peu pressé.
D'accord. Pardon.
Dommage.
Bon,
non,
super.
Mais comme tu disais sur ce son-là, c'est
hyper tranchant.
J'ai trouvé ça très sec. Hein.
Ouais,
c'est désagréable.
Un peu autoritaire.
On se casse, on démissionne, I quit.
Non, mais pour faire le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ça illustre bien aussi les personnages. En fait, cette musique, elle dit beaucoup des personnages, justement, ouais. Ces personnages qui changent, mais qui ne changent pas vraiment, qui restent, qui sont au fond d'eux. Donc des
tout
gens, comme tu dis, un peu cassés, un peu abîmés, avec des problèmes. Et c'est vrai que cette scène est très belle parce que c'est une scène un peu de rencontre entre ces 3 personnages. Ouais. Effectivement, lui, il arrive maquillé.
Ouais. Ce qui surprend en fait les 2 femmes.
Mmh. Ouais, tout à fait. Il les entraîne progressivement à venir danser. Et ça va les faire vivre un moment de libération où toutes les 2 qui étaient encore un peu dans la gêne de la rencontre, à sentir mutuellement qu'elles avaient des soucis. Là, il y a quelque chose qui lâche et c'est très émouvant à voir. Enfin, moi, elle me fait pleurer à chaque fois, cette scène. Et un petit peu plus tard dans cette même partie de film, vient le deuxième morceau du coup dont on va pouvoir passer un extrait qui est du coup le morceau Wonderwall d'Oasis.
Le morceau que tout le monde joue à la guitare pour draguer en soirée.
Exactement. Ou quand on était petit, je sais pas s'ils font encore ça les jeunes aujourd'hui.
Oasis, je pense que ça a disparu des radars. Today is gonna be the day.
Cette fois on la passe, Louis, c'était toi.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire.
Et voilà, vous connaissez la suite, vous pourrez chanter seul. Mais.
C'est faux, il n'y a personne qui connaît les paroles, tu sais. On va te dire blablabla,
showing gum.
Et voilà, enfin, je pense que je vais faire tourner la parole un petit peu, mais en tout cas, ce qui est très beau dans ces 2 morceaux, c'est qu'au-delà de la beauté des scènes, je trouve que c'est très fort chez Dolan, c'est qu'il arrive aussi à chaque fois à trouver des morceaux extrêmement connus. Et que que beaucoup de gens qui regardent le film connaissent avant.
Ah,
et
Ozone,
je trouve que
Ozone enregistre la fin du monde là,
par exemple,
et ça passe trop bien.
Non, mais c'est ça.
Cette scène dans la cuisine, elle est bien.
Ozone.
Oui.
C'est ça que je pensais.
Avec les assez doux, il y a rien qui va, mais il y a tout qui va, c'est parfait.
Dolan.
Et voilà, je trouve qu'en choisissant ces morceaux super populaires, et puis pour Céline Dion, le trésor national, comme il dit, voilà, il y a quelque chose de très touchant aussi. Et puis voilà, c'est un très très bon film et une très bonne BO, je vous conseille.
Et sur cette deuxième scène que tu as choisie, il y a quand même ce truc.
Mais du coup, je sais pas si je le révèle à la radio. Tout le monde n'a pas forcément.
Bon, il y a un truc qui se passe.
Je vous conseille de regarder parce qu'effectivement, la scène d'Oasis contient une merveille cinématographique par ailleurs.
Qu'on ne voit, enfin, moi je l'avais jamais vu, je crois.
Non, moi
j'ai pas une culture cinématographique de ouf non plus, mais je n'avais jamais vu ça dans aucun film. Donc c'est. Et wow. ça apporte vraiment quelque chose.
C'est un bon écolier, hein, Dolan.
Il est bon.
Gros teaser.
Ok, ce soir, pic de téléchargement sur Momi grâce à la gang à Talouillette.
Ça, on continue à distribuer de la bonne humeur, c'est bien.
Tu veux un pic?
Oui, bah arrêtez, on a bien compris que la dépression, ça m'inspirait.
Comment faire une transition parce que là ça allait Québec et tout.
Bah si la transition, je vous laisse vous démerder.
Bah ouais, justement,
je lâche le mic et c'est à toi.
Elle m'a fait en vacances.
Bah, Steven.
Ok.
T'es chaud?
Bah ouais, allez. Bah,
sinon moi j'avais une super transition.
Bah vas-y.
Non parce que niveau dépressif, moi j'ai choisi L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc oui. C'est vrai que bon,
on reste sur la bonne humeur.
Animation. Oui voilà c'est ça exactement. Est-ce qu'on se l'écoute d'abord et après on fait parce qu'en fait c'est le tout début, j'ai choisi le tout début.
C'est This is Halloween.
Ouais, parce que tous les bons trucs étaient choisis.
Danny Elfman, ouais.
This is Halloween. Don't you scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat till the neighbors gonna die of fright. It's our town. Everybody scream in this town of Halloween.
Donc voilà, This is Halloween, c'est le tout début du film et ça présente ce grand personnage, cet immense personnage d'ailleurs que tout le monde connaît, donc Monsieur Jack. Et du coup, c'est quand même la grande star de ce petit village qui fête Halloween. Et dans ce paisible, dirons-nous, village, finalement, il y a quelque chose qui a perturbé tout le caractère un peu horrible et adorable de ce petit village. C'est Noël, c'est la fête de Noël qui rend les gens joyeux, etc., etc. Donc vous voyez le contraste entre Halloween et Noël. Donc voilà, c'est signé, c'est une BO qui est signée donc Danny Elfman. Ouais. Et d'ailleurs, il a participé à énormément de BO de Tim Burton, puisque c'est à la base.
Après,
donc c'est pas réalisé. L'étrange Noël de Monsieur Jazz n'est pas de Jack. Jazz aussi.
C'est la version.
On est à la guinguette.
Et donc c'est scénarisé par Tim Burton, mais ce n'est pas réalisé par Tim Burton.
Après
c'est Henry Selick.
C'est un peu son film hein, dans le
sens
où
il a complètement écrit le film. Donc, et puis on reconnaît la patte.
Danny Elfman, il a fait quasiment tout Tim Burton.
Exactement.
Il a fait un peu de Sam Raimi aussi, il me semble.
Ouais, bah, les Spider-Man. Et alors le point commun entre tous, alors au début on l'entend très très rapidement, c'est ces petites voix de
les chœurs. Il aime bien les chœurs.
Retrouve partout dans toutes ses BO, etc.
Il a fait aussi du jeu vidéo, il a fait Fable, qui était sorti en 2014, je crois, sur Xbox. Okay. Et c'est lui qui signe la BO de. C'est vrai qu'il a un univers hyper marqué.
Ah ouais,
de This is Halloween, il y a une reprise aussi de Marilyn Manson.
Qui est
assez stylé, qui est un peu plus
péchu. On est dans le thème, hein.
Et oui, voilà, tout à fait.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est les binômes qui marchent super bien.
Exactement, ouais, qui créent tous ces univers, en fait.
Ouais.
C'est vrai que Tim Burton, on le voit rarement sortir un peu de ces sentiers qu'il a lui-même créés, finalement. Et on est toujours un peu dans ce côté lugubre, mais tellement attachant. Parce que souvenez-vous d'Edouard aux mains d'argent, il est juste génial. C'est une réécriture de Frankenstein qui est juste hyper émouvante. Donc voilà.
Okay. C'est vrai qu'il y a souvent, comme tu disais Gaëtan, des duos comme ça de réalisateurs et compositeurs. Qu'on a quand même pas mal dans l'histoire du cinéma.
Genre Wes Anderson et Sam Maclou, tu vois.
Ouais, bah après t'as Spielberg.
Elle est trop drôle cette dingue.
Ouais, elle était trop drôle. Elle est passée un peu vite, mais elle était drôle.
J'ai même pas eu le temps de la capter.
je te l'écris par texte.
Donc voilà, pas grande découverte, mais au moins, si ça vous donne envie de revoir ce petit ce film d'animation, pardon, okay, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est un régal visuel.
Moi, ça me parle beaucoup, et d'ailleurs, le son que moi j'ai choisi, il est dans la même veine, parce que j'ai choisi donc le générique de La Famille Addams, le générique historique de la série de 64, il me semble. On peut se l'écouter quand même. Donc, La Famille Addams de Vic Mizzy, qui est un pianiste américain.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum.
Et donc ouais, moi j'ai choisi celui-là parce que
c'est stylé.
C'est stylé, déjà. Voilà, c'est stylé. Et je trouve que ça fait partie de ces génériques qui arrivent vraiment par la musique à transcrire aussi tout l'univers. On a ce truc un peu inquiétant et en même temps rigolo que représente La Famille Addams. Donc La Famille Addams, ça commence à être vraiment vieux maintenant, parce que les premiers, la naissance de La Famille Addams, c'est Charles Addams qui est dessinateur. Et qui commence en 1938 à faire des dessins. À la base, c'est même pas vraiment une famille, c'est des personnages un petit peu comme ça, juste pour faire des dessins un peu drôles, avec du lugubre drôle.
Mais quand tu dis des dessins, c'est une BD ?
Plus des dessins, tu sais, comme il faisait à l'époque, un peu des dessins en monographie, et il y en a plusieurs, et ça raconte pas nécessairement une histoire. Plus un peu comme du dessin de presse, si tu veux.
Ah ouais.
Et donc, on a ça, on a une collection de personnages, et ensuite, dans les années 60, c'est récupéré pour en faire une série. Et jusqu'à aujourd'hui, récemment,
avec
l'an dernier,
Tim Burton,
avec Mercredi.
Mercredi, ouais, de Tim Burton qui récupère le personnage. Donc on voit qu'il y a eu des évolutions, notamment Mercredi, à la base, c'est la petite sœur de Pugsley qui, au cours de... Donc dans la première série, c'est toujours la petite sœur, et puis après, ils lui font jouer un rôle plus important, à tel point que ça devient le personnage auquel on s'identifie le plus, en fait, dans la série. C'est pour ça que Tim Burton a fait une série sur Mercredi. Les autres personnages, c'est vrai qu'ils sont moins charismatiques, ils sont moins intéressants.
Ils sont moins présents, même les membres de la famille Addams.
Morticia, elle est stylée.
Elle est charismatique.
Mais, le fait que Mercredi soit une enfant, soit une adolescente, donne un espèce de truc d'identification qui est assez fort. Et moi, j'aime bien ce genre de musique qui vient donner une caractérisation, comme si c'était presque un nom musical des personnages. Et là, La Famille Addams, ce générique-là, il a été beaucoup repris dans quasiment toutes les fictions, en fait, de La Famille Addams. Donc il y a eu plusieurs films, il y a eu plusieurs séries,
les dessins animés quand on était petit,
les dessins animés, etc. Tout ça reprend le même thème musical, comme si voilà, c'était maintenant leur initiative.
Oh là là, mais ça a bien pété là.
La vache, non mais Claire, qu'est-ce que je t'ai dit quoi ? Tu mets pas à charger ta clope électronique, t'as fait péter toutes les lecs de Blois quoi.
Pardon. J'ai pas fait exprès.
Putain. Non, désolé pour la coupure. On a arrêté de pédaler, en fait, ça c'est vrai. ouais, c'est la Chine, c'est l'enfer. Oula, non, j'ai pas dit ça.
Donc, les aléas du
on va nous recouper, putain, oui.
Pas c'est pour les mêmes raisons, mais...
Pardon, chez Jinping. on faisait un tour de table et t'as été complètement coupé.
Ouais, non, j'ai fini. Voilà. Regardez La Famille Addams, c'est bien. Voilà. Et Gaëtan, tu avais choisi quoi ?
Eh ben moi, j'ai choisi, on parlait beaucoup des duos de compositeurs-réalisateurs là avec Marie, et moi, j'ai vais présenter John Carpenter, en fait, qui est un réalisateur qui fait lui-même ses compositions.
C'est vrai.
C'est assez rare dans le cinéma, mais le mec est cinéaste à la base, et c'est ça, et en fait il a vraiment fait de la musique par nécessité, c'est pas du tout un musicien, et du coup ça s'entend aussi dans ses bandes-sons. C'est toujours des bandes-sons très épurées, très minimalistes, et en fait on a des couches qui se rajoutent à chaque fois, et lui il le dit, hein, je l'ai pas fait par amour de la musique. Aujourd'hui il s'avère qu'il aime plus la musique que le cinéma, mais au départ il l'a fait juste parce que ça lui coûtait moins cher, en fait, de faire ses musiques lui-même.
Et comme un film sans musique, c'est un peu pragmatique.
Voilà, c'est ça.
Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et du coup, un film relativement connu qu'il a réalisé, c'est le film Christine. Pardon. C'est le film Christine que je présenterai un peu après avoir écouté le morceau du film, le thème.
mettra ce petit synthé.
Ouais, bah toujours, bah c'est sa marque de fabrique de toute façon, le synthétique John Carpenter, bah c'est pour ça que d'ailleurs le groupe Carpenter Brut s'appelle comme ça, c'est pour lui rendre hommage. Et du coup, on ressent bien le thème vraiment minimaliste, mais il faut savoir que c'est des bandes son qui aujourd'hui sont presque plus connues que les films eux-mêmes. Et il faut savoir qu'il fait aujourd'hui des concerts, John Carpenter, il réalise plus de films, mais il passe dans des salles de concert pour jouer ses thèmes de films. Voilà.
Avec une flûte avec.
C'est un synthé, Louise.
Et c'est rien du tout.
Mais oui.
Et il est super intéressant ce gars-là parce qu'en fait, même quand il fait le montage de ses musiques, il faut savoir qu'au début de la carrière, il n'avait vraiment aucun moyen et du coup, il ne voyait pas les images, les rushs, il ne voyait rien du tout. Et du coup, il composait juste comme ça avec le film de tête et en gros, sa musique qu'il composait, bah, il le posait comme ça sur le film. Donc, je trouve ça assez cool l'idée d'un réel compositeur qui fait de la musique parce que bah, j'ai pas de musicien sous le coude. Quoi.
Voilà. Pas d'argent pour le payer surtout.
Voilà, c'est ça.
Et t'as Amenabar aussi qui compose ses musiques.
Ah ouais ?
Amenabar, les autres. Ouais. Tu sais, on avait fait une émission.
Est-ce que c'est un musicos à la base ?
Ouais, il y a une formation de musicien. Voilà.
C'est ça qui est intéressant, c'est que John Carpenter et la musique. Vraiment, c'est pas du tout un musicien. Il s'est composé quelques notes au piano. D'ailleurs, ça s'entend en fait dans ses thèmes. Tu vois, il reste dans des choses très très simples à chaque fois.
Okay.
Donc voilà, les thèmes de John Carpenter, c'est toujours cool à écouter. Donc si vous aimez bien un peu les années 80, ça transpire le synthé des années 80, quoi.
Ah, nickel. Donc là, on a fini de parler de musique. Ouais. Maintenant, on va faire n'importe quoi.
Et là, tu vas rebrancher ta clope et ça va repartir.
Tu arrêtes. Oui.
Non, en fait, on a prévu de vous faire rire.
Et oui.
Et ça marche,
t'as vu,
c'est
ça,
méga méta.
Le non. Talent.
Et en fait, t'as un quiz politique, je crois.
Et j'ai un petit quiz musique et politique.
Oh. Ah.
Voilà, pour vous lancer. Donc là, ça y est, on vous lance en équipe.
Ok. C'est parti.
Marie et Claire contre Célia et Gaëtan.
Ok.
On est prêt.
Donc c'est la win contre MC.
Donc là, on commence
MC,
avec un petit quiz rapide en 5 questions, un petit QCM. Sur les musiques de campagne électorale.
Oh,
oh, c'est,
oh
trop
c'est une de mes passions dans la vie.
Oh, il y en a une, j'espère que tu l'as mise.
J'ai essayé de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais...
Ah, okay.
Attends, il n'y a qu'une seule campagne électorale ou il y en a plusieurs?
Ah, il y a toutes les campagnes électorales. Ah, ouais. Françaises.
Depuis la création des campagnes électorales.
Alors, vous êtes prêts?
Moi aussi, on est prêts.
Première question. En 2007, quelle politique avait pour musique de campagne une reprise de Femme Like You de Camaro dans laquelle on peut entendre la phrase suivante? T'auras mon bulletin dans ton urne.
Mais non !
Réponse A, Philippe de Villiers pour le Mouvement pour la France. Réponse B, François Bayrou pour l'UDF. Réponse C, Dominique Voynet pour les Verts. Et réponse D, aucun parce que ce n'est pas possible.
La réponse D.
Alors, qu'est-ce que vous dites ?
Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais.
La B.
Nous, on dit Bayrou.
Bayrou.
Ah, mais ça fait un point partout. Et en effet, c'est Bayrou. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc ou c'est par déduction?
Non, c'est par déduction.
Par déduction. Bah, mais ça me dit vaguement quelque chose et c'est ça qui me fait peur en fait.
Et bah, je vous invite à l'écouter chez vous. J'ai pas voulu
heureusement
la mettre,
que Marie est là parce que moi j'aurais dit aucun, ça n'est pas possible.
C'est vrai que j'ai hésité entre eux, mais c'est faux.
Et oui.
Non, non. Mais je me suis trompé d'émission.
Dans ton bah, c'était quand même une belle pêche live.
Ok, 1-1 pour la win et MC.
Exactement. Deuxième question, je vais vous donner un scénario de clip de campagne qui se base sur la musique. Et vous allez devoir me dire pour quelle politique c'était.
Okay.
Donc un homme rentre chez lui, on voit un gros plan sur les clés qui ouvrent, et il rentre dans sa maison et on entend que sa chaîne IFI diffuse du rail. Et il prend la télécommande et il monte le son de la musique classique. Et le message s'affiche avec machin, restons maîtres chez nous.
Oh,
alors
pétard.
Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen en 88? Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen en 2007? Est-ce que c'est Bruno Maigret pour le MNR en 2002? Ou est-ce que c'est Éric Zemmour en 2022? Alors je vous laisse vous concerter rapidement. Le Pen 88, Le Pen 2007, Bruno Maigret 2002.
Sont en train de se
Éric Zemmour 2022.
Oui, le groupe MC, et ouais, elles se mettent d'accord, elles ont deux têtes. Oui.
Maigret, c'est quelle année, s'il te plaît?
Maigret, c'est 2002.
Ils sont assez dubitatifs.
Il nous faut des réponses. Hein,
nous, on dit Zemmour 2022.
Zemmour 2022.
Non, moi, je dis Zemmour. On hésite entre Jean-Marie Le Pen ou machin.
Bah, faut dire une réponse, en fait.
Francis Lalanne.
Le Pen 88, tu dis?
Ouais.
Mon cher collègue dit Le Pen 88.
Échec partout.
Ah, merde.
Échec partout. C'est Maigret.
Putain, j'en étais sûr.
Je t'ai dit, c'est 90, le rail. C'est 90.
Le clip s'arrête. Non, c'est 2002. Ouais, mais oui.
Oui, mais du coup, le
clip
Rise
s'arrête avec la gueule de Maigret qui fait un grand sourire sur son canapé. C'est ridicule.
Ah là là, on n'était pas loin.
C'est
pas loin.
Affreux.
Super, la win.
Troisième question.
On était à ça.
Troisième question. Quel politique a réalisé un clip de campagne sur un remix de la musique de Final Fantasy X en 2012? Pour réponse A, Jean-Luc Mélenchon. Réponse B, Eva Joly. Réponse C, Jacques Cheminade. Réponse D, Nathalie Arthaud. Donc ça, Mélenchon, Eva Joly, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, musique de Final Fantasy X. Je pense, si on...
Nous, on dit c'est Eva Joly.
Ouais,
Eva
on est Joly super efficace. Et...
ouais, je sais pas, on dit Cheminade, mais sans conviction.
Eh
ouais.
bien, c'était Eva Joly.
Ouais. Yeah. On prend la main.
Oui, c'était, on s'en était pas rendu compte à l'époque, mais c'était à la pointe de ce qui se faisait culturellement. quatrième question. Dans le clip de campagne de Chirac en 95, donc je vais vous le donner le début des paroles, il va falloir compléter. On a dans notre... faut que j'essaie de pas la chanter parce que c'est une de mes préférées. On a dans notre pays le pouvoir de changer de vie. Demain, si nous le voulons, tous ensemble, nous réussirons. Et là, je vais vous donner quatre possibilités de suite. Réponse A. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Réponse B. La France a trouvé en Chirac un homme de courage qui ne fléchit pas. Réponse C, la France a trouvé en Chirac une étoile qui brille de mille feux dans notre horizon. Réponse D, la France a besoin d'un homme intègre qui n'ira jamais en prison. Donc homme de courage, de résolution, homme de courage qui ne
réponse
fléchit pas.
A. Nous c'est ouais, réponse A.
A. A aussi. A. Vous ouais. connaissez vos classiques.
Oui, mais nous, rapidité, on gagne.
Ouais, non, on l'a dit avant.
Non. Ah, ils ont compté sur nous.
On a dit réponse du A et après ils ont dit réponse A. Parce que nous on prend le temps de se consulter.
Arrêtez d'inventer des règles. Voilà. Il y a une espèce d'égalité là, non ?
Non, elles ont un point. Et on est honnête, elles ont un point.
Dernière question.
Par contre, heureusement que c'est un QCM. Hein, parce
petit ouais. quiz politique. En 97, Jean-Marie Le Pen fait campagne avec une chanson dont le refrain est « Avec Jean-Marie, je n'ai plus de peine ». Donc, dans quel style musical ? Réponse A, du zouk avec une chanteuse malgache. Réponse B, du rap avec un rappeur marseillais. Réponse C, du classique. Classique. Réponse D, du corps de chasse avec un chanteur solonio.
Du corps de chasse avec un chanteur solonio, bien sûr.
Alors,
juste pour ça, il faut qu'on l'entende.
Vas-y, Gaëtan, vas-y.
Moi, j'ai envie de tenter le rap.
Eh bien, vous avez tous perdu, c'était du zouk avec
ah putain, j'étais entre rap et zouk. Ouais, bah oui, ça me semblait, c'était le truc improbable.
Bah oui, forcément. Voilà. Bah évidemment.
Il y avait des tentatives aussi là.
Okay. Il n'est pas raciste.
On est sur 3-1 pour MC pour l'instant sur le premier jeu.
Hein ? Non, 3-2. 3-2.
3-2.
On avait qu'un point d'avance. On a deux points.
On filera les 10 euros sous la table tout à l'heure.
Merci. On continue le jeu avec des questions un peu plus ouvertes pour nous permettre de discuter un petit
mais
peu.
Mais attends, c'est quoi ? J'ai envie de passer sur l'heptapode direct.
Vas-y, passe sur l'heptapode.
Il y a moyen ou pas ?
Bah vas-y, vas-y.
Ouais, ouais, avant que ça fasse un truc un peu fleuve.
Vas-y, vas-y.
Alors, moi, ce que je vous propose, on va écouter. Je sais pas si vous avez vu le film Premier Contact de Denis Villeneuve.
Oui.
Denis Villeneuve. Où en gros, il y a des extraterrestres qui arrivent et en fait, il y a une linguiste qui essaye de tchatcher avec eux. Quoi. Et il y a une scène qui est trop belle où dedans, il y a les rencontres et tu as un son. Et en fait, c'est un vrai métier. Le son a été a mis quelques mois à se faire. Et en fait, c'est un mélange d'instruments, de musique et de...
Putain, de bruit d'animaux.
De bruit d'animaux.
Oui, tu vas dire les réponses.
Donc, l'idée, c'est qu'il me faut un instrument de musique et un animal qui a été utilisé pour le son de l'heptapode. D'accord. Est-ce qu'on peut écouter l'heptapode ?
Très compliqué. C'est vraiment très,
faim,
très compliqué.
Steven, non ?
Est-ce qu'il y a plusieurs animaux ou il n'y a qu'un seul animal ?
Il y a deux animaux.
Alors, parce que oui.
Mais vous pouvez en dire qu'un.
Ah, on peut en dire qu'un, parce que moi, j'avais reconnu deux animaux. Mais
alors, bah vas-y.
Vas-y, c'est bien. Vas-y,
vas-y. Bah, c'est de la rapidité.
Alors, nous aussi, moi, on avait deux animaux. Hein, une baleine et un fauve, un lion, un truc comme ça. J'aurais dit baleine et
nous,
fauve.
Nous, on dit hippopotame et fauve.
Mais alors, zéro pointé.
C'est vrai ?
Ouais.
On est nuls.
Un crocodile.
Ouais. Alors, attends, dernier, et l'instrument de musique ?
Voilà. Bah, du coup, je me suis pas concentrée là-dessus. Ouais.
C'est un vrai
on a bien fait de se concentrer
musique.
Sur les animaux parce qu'on était super bonnes en plus.
C'est un instrument de musique qui. Non, j'arrête.
Est-ce qu'on peut le réécouter ou pas ?
La contrebasse ?
Non, parce que c'est.
Ah. Bah ouais, mais bon.
C'est un instrument avant.
Avant ?
Ok.
Enfin, oui.
Faut penser Sarouel.
Faudrait déjà savoir ce que c'est. Didgeridoo.
Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr. Bon, est-ce qu'on accorde le point ou pas? Parce que c'était vraiment une énorme lance.
Merci, Blobilon.
Oui, oui. On accorde le point. Allez, et alors, allez.
Attends,
animaux...
mais les animaux, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de fauve.
Non. Non.
Alors, c'est
là,
quoi,
c'est quoi
du
les animaux?
C'est hyper dur à imiter, je vais essayer à la radio. J'ai toujours rêvé de faire le chameau à la radio.
Ah, c'était un chameau.
En fait, vas-y, fais le chameau.
C'est guttural. Non, c'est pas le chameau.
Non, mais en fait, il faut le faire après deux paquets de gauloises de maïs, tu vois.
Ouais, d'accord.
Là, ça passe. Mais ouais, c'est du chameau. Et aussi, bah là, on l'entend pas sur cet extrait, mais ils sont allés capter des sons d'oiseaux néo-zélandais. Le kiwi et le kakito.
C'est impossible à trouver.
Non, mais c'est ça, on les connaît même pas, tes animaux.
Non, mais après, voilà, le chameau.
J'adore ce métier.
Chameau, non, mais ouais, c'est j'aurais jamais fait ce taf si j'avais appris qu'on pouvait ça faire ça dans la vie, quoi. Bref. Mais... Donc, tout ça, c'est pour te lancer peut-être une réflexion de quelques minutes, tu vois, sur. Moi, ce sont par exemple.
Sur les chameaux.
Sur les animaux, j'ai fait mon animal préféré.
Alors, pour
moi, mon animal totem.
Ah ben moi c'est la chamelle. Surtout après hier soir. Non, c'était par exemple moi ce genre de son me fait vraiment flipper quoi. Ça réveille un truc en moi et je sais pas si vous avez des exemples de tu vois de
ça
créatures.
Ça réveille quoi en toi?
Non, on va pas savoir, on va pas savoir.
Les envies de Ruth.
Fais le chameau pour moi.
Là, je vais exciter tout blanc là. Non, alors je sais pas, est-ce que je lance voilà
une bouteille
à la mer, voilà, à la Loire, une bouteille à la Loire. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui vous rappelle, je sais pas, un son de créature dans film?
Moi j'ai, ouais.
Ouais.
J'ai dans le jeu vidéo le son des claqueurs dans The Last of Us.
Ah ouais.
Je sais pas si vous avez joué un peu.
Il y a la série. Il y a la série où on l'entend aussi. Ouais.
Et ce son est assez. Pour moi, dans l'expérience du jeu, il a été très très fort. Pour te faire vraiment ressentir une espèce de peur sourde avec ces créatures qui se dirigent que au son et qui ont une empreinte en fait vocale hyper particulière. Et ouais, pour moi, si tu me demandes un son qui peut me faire flipper, celui-là est très très fort.
Ok. Ah,
moi, ce serait Les Dents de la Mer. Ah ouais, et puis où l'approche du requin dans Les Dents de la Mer avec cette putain de musique. Moi, j'entends cette musique, j'ai beau être en dehors de l'eau, j'ai l'impression qu'il y a un requin.
Moi, ce serait le T-Rex dans Jurassic Park.
Ouais,
n'hésitez pas à faire des bruits d'animaux.
On est là pour ça.
Justement, j'avais prévu un mini-jeu avec des tyrannosaures. On verra si on a le temps. On verra. Ouais, le tyrannosaure, c'est flippant de
ouf.
Mais parce que le sound design du T-Rex, il est soigné, mais aux petits oignons. Il y a plein d'animaux, mais ça, c'est après. Et vous avez un exemple?
Il fallait me donner à dire avant de réfléchir. Moi, tu sais, si je réfléchis pas 48 heures à l'avance, je
sais pas. Un animal?
Non, pas forcément, mais un son qui te.
Un son qui me fait flipper.
Ouais.
Ah, bah, pour repartir sur John Carpenter, t'as la bande-son d'Halloween qui marche super bien. C'est des petites notes de piano, tu vois. Pareil, une mélodie hyper simple. Et pour la petite histoire, en fait, le film ne marchait absolument pas devant les producteurs quand il a présenté le film. Et en fait, il a dû rajouter cette musique-là. Pour valider le film auprès des producteurs. Et mais ça marche super bien.
Et dans The Thing, il n'y a pas un truc aussi comme ça avec Carpenter? C'est Carpenter aussi, non, The Thing?
Ouais, mais c'est Ennio Morricone. Ouais, mais c'est Ennio Morricone qui fait la
bande-son
de celui-là.
D'accord.
Mais oui, la bande-son, elle fait flipper.
Ah oui, on est d'accord. Hein.
Oui.
Parce que j'ai un souvenir d'avoir eu peur quand même devant ce film. Et sinon, je pensais, du coup, si on est juste sur bande-son qui fait flipper, dans la dernière saison de Stranger Things, le truc qu'ils ont trouvé où justement...
Le démagogue.
Ah oui.
Ouais. Et la personnage pour lutter contre l'emprise de cette créature terrifiante écoute de la musique. Et du coup, cette musique de Kate Bush qui est revenue de ouf à la mode à partir de cette saison. Moi, c'est terrible parce que j'adorais cette chanson avant, mais maintenant, elle est associée à un sentiment de peur.
Tu vois ?
Ils t'ont pourri cette chanson.
Ouais,
c'est vrai qu'il y a une espèce de double, de double truc en fait, où les musiques elles peuvent apporter, un peu comme dans Halloween où le film, maintenant Gaëtan, on peut le dire, il est pas ouf. Mais...
Non, t'es ouf. Oh, le premier Halloween.
Non, mais c'est pas, c'est fou, pas t'es très
t'es
bien.
Fou. Non,
mais...
t'es fou.
Bah, sans la bande-son, il est pas ouf. Mais là, avec la bande-son, waouh, il est trop bien. Et ce double truc où, après, des musiques peuvent être marquées par un film ou par une série.
Par exemple, comment tu revisites en fait les sons ultra connus et finalement tu les associes au film et là tout de suite, ça prend une dimension de dingue.
Attends, j'ai un autre bruit. Vous avez vu Hereditary?
Non.
Voilà, ouais. C'est juste un son. Il y a une gamine qui est ultra flippante parce qu'elle a déjà un visage assez disgracieux, un énorme front. Bref, et elle fait un bruit, elle fait. Et on sait qu'elle est là, quoi. Tu sais, la puissance d'un seul bruit. Non, mais je l'ai mal fait, genre. C'est bon, vous l'avez? Bon,
là, t'as peur d'un coup, là.
Ah, non, c'est juste que tu l'associes à une.
Le chameau.
C'est chiant. Et ben, tu mixes tout. Non, voilà. En fait, je trouve que c'est ouf, la puissance de déjà du silence aussi, tu vois. Le fait que ce son n'apparaissent plus ou alors qui soient réinvestis dans une scène, tu vois. Et dans Asbestas, les aboiements du chien, dans la scène importante, dès que t'as plus les aboiements,
c'est vrai.
Tu sens que c'est ça va plus, quoi. Mm-hmm. Donc c'est même plus une question de son, c'est une question de la puissance du silence, tu vois. Mm-hmm. En tout cas, on parle de film de peur.
Ouais.
Voilà. Oh, c'était cool. On a entendu l'heptapod.
Tu m'y tenais à ton heptapod, hein. ça fait une semaine qu'elle me parle que de l'heptapod.
L'heptapod.
Je sais pas, je lui ai dit, t'as avancé sur la musique, elle me dit, ouais, l'heptapod, c'est pas de la musique. Elle me dit, ouais, c'est pas grave.
Et c'est un peu chantant.
Elle y tenait.
C'est un peu chantant.
Attends, regarde, ça, c'est l'accent du, c'est un heptapod de Marseille. Hein.
Mais du coup, c'est plus un extraterrestre, ça ne marche pas.
Tu sais pas.
L'OVNI de Marseille, c'est Jules, par contre. Je
vais pas tester. Là, clairement, ouais. N'essaie pas de marcher sur ces plates-bandes.
Et donc là, pour le moment, oui, il y a Claire et Marie qui ont marqué un point parce qu'elles ont trouvé le didgeridoo. Ouais. Pas du tout
aidé, hein.
Aidé, non,
on sent que ouais. Les pots de vin, ça fait chier.
Chacun se référence, s'il vous plaît. On se calme.
Est-ce que pour relancer un petit peu le jeu, on passe sur une autre question?
Bah, carrément.
Moi, je vais vous poser la question d'une actrice qui, après avoir joué dans un biopic musical, a annoncé avoir dû recourir à des exorcismes et à des exorcismes avec du feu et du sel, j'ai pas trop compris, et des procédures de cérémonie chamanique pour sortir de son rôle parce qu'elle était trop prise dans son rôle, etc. Alors, quelle actrice?
Elle a joué dans un biopic. Un biopic musical.
Quelle actrice dans quel biopic musical a dû faire des exorcismes?
On peut dire plusieurs trucs ou pas?
Je sais pas, c'est pas moi qui fais les règles.
Si on est en mode rapidité, on va penser à un truc. Go. Marion Cotillard, la môme.
Bah ouais, allez, j'y pensais aussi.
Alors,
ma gueule.
Plus rapide. Et donc oui, Marion Cotillard a dû passer dans tout un tas de trucs. Elle est allée aussi sur le Machu Picchu. Enfin,
parce qu'elle a dit excuse pour voyager, hein, ça
sur
va.
Sur son yacht, avec l'exclavement de la terre.
Elle a juste gagné plein de thunes, elle est allée sur le Machu Picchu. Mais voilà,
aussi,
donc elle a dû, pour sortir de ce rôle, parce qu'elle était hantée par le rôle d'Edith Piaf, et elle a raconté qu'après elle avait compris que c'est parce qu'Edith Piaf avait été abandonnée enfant, c'est pour ça qu'elle a hanté.
Donc, mais des fois, les acteurs, ils peuvent raconter des conneries, mais laisse tomber.
Ouais, et en même temps, tu vois, je suis en train de penser à un truc, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur Netflix qui s'appelle Rock'n'Roll, qui est une espèce d'autofiction avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. Oui, sauf que j'ai trouvé qu'il y avait un truc d'autodérision hyper marrant dans ce film, c'est que Marion Cotillard, justement, représente cette espèce de technique d'actrice qui se mélange complètement à son rôle, puisque dans le film, elle est sur le point de jouer avec Dolan dans Juste la fin du monde, et du coup elle est persuadée que pour faire ce film il faut absolument qu'elle parle québécois avec l'accent québécois, et du coup tout le long du film, et même quand elle s'engueule hyper sérieusement avec son mari et tout, elle prend l'accent de ouf tout le long, ce qui mène à des scènes quand même assez cocasses. Voilà. Donc je me suis dit, elle a un peu d'autodérision sur ce truc là peut-être j'ai mal interprété.
Non mais si je pense qu'ils ont voulu faire un truc d'autodérision, après le film en lui-même est pas ouf quoi, mais c'est que ça c'était rigolo.
C'est comme Astérix quoi.
Oh là là.
Du coup, ouais, en termes de biopic, j'ai pris une anecdote sur celui-là parce qu'il a quand même pas mal marqué l'histoire des cinémas de biopic, si c'est un genre à part entière.
Bah oui.
Moi, je sais que les biopics, par exemple, c'est un genre biopic musical, donc globalement, ça me fait chier.
C'est
me
saoule. Ouais.
Mais est-ce que vous voyez des trucs.
Bohemian Rhapsody.
Oh yeah. Ouais,
cool. C'est pas un peu surcoté, ça?
Ah non, il est génialissime, ce film.
Non, ouais. Il est bien.
Moi, j'adore.
Je vois pas l'intérêt de refaire exactement le concert AIDS, là, en 90, je crois, à Londres.
AIDS, oui.
En fait, tu regardes le film et tu regardes les vidéos, c'est exactement pareil.
Oui, mais parce que
ça
c'est un pic dans le film, mais c'est le film, c'est pas la seule chose qu'il fait.
Bah
tu vois,
non,
c'est
quand même
du film,
la
c'est
la
te faire découvrir sa vie.
De
quoi,
te faire
c'est
découvrir
sa vie. Alors, entre drogue, peine de cœur et tout, c'est pareil pour. Comment il s'appelle
En même temps, c'est leur vie. Hein. Je veux dire,
tous homosexuels.
Ouais, mais si c'est de faire découvrir leur vie, d'où on parle, par qui c'est produit. Parce que moi, j'ai un exemple de biopic qui m'a posé énormément de problèmes, qui est un film après satisfaisant en soi, mais c'est le NWA, Straight Outta Compton. C'est le premier groupe de Dr. Dre et Ice Cube. Et il s'avère que les producteurs du film, c'est Dr. Dre et Ice Cube.
Bah
donc
oui.
Autant te dire que dans le film, c'est des super-héros, les mecs. Et alors moi, je veux bien y croire un petit peu, mais il y a beaucoup d'anecdotes qui sont vraies là-dedans. Mais tu vois bien que déjà, les autres membres du groupe, à part Eazy-E, mais les autres, ils n'existent quasiment pas. Ouais. Et en plus de ça, on sait très bien que, par exemple, Dr. Dre était alcoolique. Tu le vois pas boire une seule fois. Ice Cube, il y a ses rapports à Nation of Islam, j'aurais bien aimé que ça soit développé. Lui a décidé de juste en une scène d'expédier ça, alors que ça aurait pu être super intéressant. Et en fait, t'as juste l'impression de voir une publicité énorme pour Dr. Dre et Ice Cube, ce qui m'a un peu saoulé en fait.
Tout l'intérêt de le faire quand ils sont morts.
Oui, enfin si c'est pas la famille qui récupère les droits.
Tu peux tomber dans la géographie aussi rapidement.
Oui, totalement.
Après, pour moi, en fait, je pensais donc à Bohemian Rhapsody, je pensais aussi à Elvis. En fait, c'est aussi des performances d'acteurs.
Ouais.
On découvre quand même des gens mais qui ont des talents mais monstrueux.
En performance d'acteur, c'est le film sur... Putain, le nom... Qui joue de la guitare.
Est-ce qu'il a des bras
Johnny Clash. Okay. Non, parce qu'en fait, je cherche parce qu'il commence comme ça. Il va sur scène, il est devant son micro, il a sa guitare, puis il fait Hello.
C'est Johnny Cash. Avec Joaquin Phoenix.
Voilà. Et Joaquin Phoenix, il est génial aussi dans ce rôle. Surtout, il est super. Là, comme tu dis, performance d'acteur, vraiment.
Ce que je trouve hyper intéressant, c'est même, tu vois, le film Walk on the Line, Bohemian Rhapsody et le film sur Elton John, Rocketman, c'est comment est-ce que tu vas écrire. Parce que souvent, tu as la mélodie. Et tu te dis, tu vois, Johnny Cash, tu le vois, il écrit quand il est à l'armée et tout.
Ouais.
Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Et quand les producteurs disent, voilà, tu vois, quand Bohemian Rhapsody, ils arrivent à un moment où le producteur dit, mais cette chanson-là, elle n'a aucun
sens. C'est
trop
long, elle est trop longue.
C'est trop long, ouais, il y a trop de changements de rythme et tout. Et les mecs sont là, non, c'est génial. Sauf que elle a une empreinte musicale, cette chanson, maintenant que...
Et justement, tu vois aussi comment ils la construisent quand ils vont dans cette espèce de ferme là, à la campagne, et comment ils créent les différents morceaux et tout ça. Tout ça, c'est cool aussi, justement, dans le processus de création d'une musique. Et ça, je trouve c'est cool, le truc cool des biopics musicaux.
Mais pareil, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Enfin, moi, je reprends l'exemple de NWO et c'est peut-être l'anti-exemple, mais quand tu vois qu'il tombe sur Tupac par hasard, il lui fait California Love comme ça en studio. Enfin, tu vois, quand tu connais l'histoire, tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc, il y a ce truc aussi de trucs très paillettes, en fait. Et moi, je sais pas si vous en avez des exemples de biopics, mais qui sont un peu dark, où les stars sont pas forcément survalorisées, où on met en avant leur côté vraiment sombre.
Mais tu vois, Ray, parce qu'il y en a. Quand même, Ray, on le voit quand même.
Les Doors, peut-être, avec Val Kilmer. Je sais pas.
Aretha Franklin aussi, respect.
Ouais. Bah, Ray, il est dark, hein,
Mais là, pour le coup, je trouve que ça tombe dans l'excès inverse. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir un côté où, justement, notamment quand on fait des biopics sur les femmes artistes, à venir insister sur leurs failles. Et, tu vois, et ça, ça me pose problème d'une autre manière. C'est-à-dire que du coup, il y a plein de choses d'Aretha Franklin qui ne sont pas mises en valeur. Alors que je trouve que dans Bohemian Rhapsody, il y a quand même un équilibre entre. Enfin, j'ai pas l'impression que ça fasse la géographie de.
C'est vrai que ça prend moins de place que dans Rocketman, par exemple. Parce que la fin de Rocketman, c'est en mode vraiment. Il met des photos de lui en mode. Voilà, c'est bon, je suis clean, tu vois, j'arrête la drogue. Ouais, c'est vraiment ça à la fin, je te. Qu'est-ce que j'ai regardé en fait, enfin, c'est bon, je connais Elton John. Je m'en suis trop cogné pour l'émission, en fait ça m'a rendu folle. C'est de la bouillie.
C'est vrai que moi à chaque fois que je sors d'un biopic musical, j'ai en fait envie d'avoir vu plutôt un documentaire. Donc de regarder un documentaire, sauf que j'en ai marre donc je le refais pas. Mais il y a ce truc de du contrat en fait biographique qui en fait est particulièrement marqué dans la musique parce qu'on connaît les artistes essentiellement par leur production et là on nous donne un peu de leur vie et tu te poses toujours la question de comment c'est fait exactement.
Et puis comme on dit, le choix qui est fait justement des éléments de leur vie, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va cacher.
Bah, c'est ça en fait, c'est des films, donc résumer une vie en 2h30 max, bon bah on est sûr en fait qu'il va y avoir des compromis, etc. Ah, c'est toujours à prendre avec du recul,
mais c'est ça.
Mais ça ne fait pas...
En fait c'est ça, il ne faut pas se dire que c'est un documentaire, c'est une fiction.
Complètement.
C'est ça.
Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour, on attend la prochaine question.
Bah on s'épargne une émission sur les biopics, super.
Allez,
yes, ça
en
c'est fait,
on avait ça, on a mis des questions sur tous les trucs qu'on veut pas vraiment faire. On s'est dit c'est le moment de...
On n'a pas mis Babe ni Gladiator, ça veut dire qu'on va peut-être refaire d'autres émissions.
Vous les avez déjà faites.
On n'a jamais ça exploré.
4 heures d'émission sur Babe, je pense.
Le déni total.
Autre question. Quelle comédie musicale? On va parler un peu de comédie musicale, encore un épisode qu'on s'épargne. Quelle comédie musicale de Broadway a été un gros échec dans les années 2010, début 2010? Je crois que ça a duré de 2010 à 2013, après ils ont dit c'est bon, ciao. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu 60 millions de pertes. Une grosse comédie musicale avec, c'était Bono qui faisait la musique.
Et c'est pas la campagne électorale.
Et c'est, Alors à votre avis, il va falloir inventer, parce que je pense que vous ne le savez pas.
Elle est connue ou pas?
Non, c'est l'adaptation d'un personnage connu.
Voilà, et il y a eu beaucoup de blessés.
Il y a eu énormément de blessés.
Ouais, non, mais pas,
c'est vraiment le record du nombre de blessés sur une comédie musicale.
Alors, et c'était une comédie musicale, je pourrais jouer à Broadway, pas en film.
2010 à peu près.
2010.
Ça a été très longtemps à produire, mais en gros, c'est...
Et c'est jamais sorti.
Pensez à un personnage un peu iconique des années 2010 qui peut amener à ce qu'en live action, il y ait beaucoup de
Michael Jackson blessés.
Non. Plus un personnage qu'une personne.
Ah oui.
Est-ce que vous êtes fort en comédie musicale?
Bah, normalement, non.
Ça dépend.
C'est vrai que c'est un peu dur. Imaginez des cascades de ouf, un personnage méga culte, avec des collants très moulants.
Jackie Chan, il fait de la musique.
Jackie Chan,
exactement ce que m'a dit Marie, mais après on était là-bas a priori, musical, pas trop.
Et il fait de la musique,
ah
hein,
oui,
Jackie Chan.
C'est chanteur, Jackie Chan.
Chanteur.
Ah, pardon.
Le Mulan, la version de Mulan en Chine, c'est lui qui chante.
Ouais.
Ok.
Et oui.
On en apprend tous les jours.
Mais c'est pas une comédie musicale sur Jackie Chan. Parce que vraiment, non, en fait, personne n'a envie d'aller voir ça.
Un super héros.
Ouais, ah oui, un super héros. Allez,
ah,
on
bah, Superman.
Ouais. Bravo Célia. Voilà.
Ouais, on avait tout dit avant. Hein,
ouais, voilà. Le DJ Rido Sarwell, là. On se calme.
Il n'y a pas de mérite.
Spider-Man qui fait DJ Rido qui fait l'aptapod.
Et donc, oui, ils ont fait une comédie musicale Spider-Man. Okay.
Quelle idée!
Il y a quelques vidéos qu'on a trouvées avec Louise avant quelques vidéos qui montrent. Donc il y avait voilà, beaucoup de ficelles pour faire voler les acteurs. Ce qui a été un échec.
Mais c'est une idée de merde quand même.
Moi je comprends l'idée. Tu te dis, ouais, ça va être stylé. Mais... Surtout qu'apparemment Bono il a fait la musique vite fait. Il a fait des efforts.
Trois accords. Ouais.
Avec Carpenter.
Il a fait le générique des années 60.
Et okay. Comédie musicale, vous, ça vous parle? En fait, on a un peu galéré à trouver des questions comédie musicale. Ouais. Louise, elle me lançait sur des trucs, et puis après, elle me disait qu'en fait, elle les avait pas vues, donc on n'avait pas de questions.
Je déteste ça, ça me met trop mal à l'aise, ils se mettent à chanter d'un coup. Là, là, là.
Ah, moi, ouais, c'est ce que j'adore.
Je déteste ça aussi.
Mais moi, c'est toute mon enfance. Ouais, Roméo et Juliette.
Ah oui.
Ah bah ouais, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre-Dame de Paris.
Oh oui.
Je suis trop fan. Mais c'est des... en fait, c'est des chansons de karaoké aussi, donc c'est ça qui est chouette.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui, c'est l'aspect karaoké du
film. Bonsoir, oui. Regardez le film, est-ce que tu kiffes?
Après, c'est pas des films, là, c'est des comédies musicales dont tu
parles. Si, après, il y a le Moulin Rouge, Baz Luhrmann.
Moulin Rouge, il est génial.
C'est chouette.
Ouais, ça dépend comment c'est fait, en fait. Parfois, il y a cet effet extrêmement gênant de... Mais pourquoi ils font ça d'un coup? Tu vois, ça casse tellement la fiction, enfin le scénario que t'es là, mais non, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Et parfois, je trouve que c'est extrêmement bien fait et que ça ajoute vraiment quelque chose. Moi, j'ai découvert, j'ai pas tout vu, mais le début, par exemple, d'une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, et qui est en partie, du coup, comédie musicale. Et au début, la première fois qu'il y a eu un son, j'étais là, oula, ah non, mais je vais pas pouvoir continuer. Et en fait, c'est génialissime parce que c'est toujours extrêmement drôle, extrêmement parodique. C'est le personnage qui se parodie elle-même dans ses névroses à chaque fois qu'elle fait... une chanson, et en fait c'est très très drôle, donc ça fonctionne bien.
Ok, bah.
Moi je trouve qu'effectivement dans Moulin Rouge ça marche aussi tranché que toi, Louise.
Moi j'ai une fausse comédie musicale, mais je sais pas si on peut dire que c'est une comédie musicale.
Si tu veux parler d'Halloween, non.
Non.
Si tu veux parler de Terminator, toujours pas.
Baby Driver, le film Baby Driver qui est très musical. Ouais, et en fait, si tu te considères que les voitures sont des personnages, c'est presque des danses.
Wow,
tu vas trop loin.
Salut Gaëtan, on l'a perdu.
Non, mais plus sérieusement, le film il est vraiment pensé comme une comédie musicale. Et quand tu as la musique qui s'active, donc qui peut être une musique intradiégétique. Diégétique des fois, t'as les chorégraphies de personnages qui sont calées vraiment sur la musique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a pensé, il est parti de la musique pour conceptualiser la scène. Donc c'est presque de la comédie musicale.
Et ça, en cinéma, on appelle ça l'effet clip. C'est quand l'image, elle est. Comment dire?
Tu pars de la musique et tu conçois c'est l'image ça. À partir de la musique.
Le cinéma de Gavras, par exemple, Athéna. Athéna, voilà, j'en ai pas d'autre. On appelle ça l'effet clip. Et l'inverse, quand la musique doit se plier à l'image, c'est l'effet cirque.
Ah, ok.
Voilà, je vous donne des pilules culturelles.
Les pilules sont loulous.
Voilà, docteur Lacroute. Mais là, on est plutôt sur un effet clip, en fait, avec le driver.
Après, il y avait. Vous en aviez déjà parlé, je crois, mais le West Side Story.
Oui,
il
a ressorti
en deux films. Bon, moi je l'ai vu, mais j'ai pas été transcendée. Je trouve ça très très long. Et en fait, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment.
Collé à l'ancienne version. C'est incroyable.
C'est la même chose. L'image est meilleure.
Voilà. Je comprends vraiment.
Et il n'y a pas le côté justement que j'aime bien dans Moulin Rouge. C'est vraiment un film et que les personnages, au lieu de se parler, chantent. Et ils reprennent des tubes en fait super connus qui sont réinterprétés. Ils prennent juste des passages qui correspondent à ce qu'ils veulent dire. Et je trouve que c'est une façon originale et intelligente de se servir, de faire une comédie musicale.
Alors
que cette série, c'est vraiment. C'est comme
la glande.
Ouais, mais alors.
Oui, la glande aussi.
La scène d'ouverture, elle est pas mal.
Oui, voilà, c'est ça, mais c'est tout. Enfin, clairement, j'ai pas accroché.
Et Big Lebowski, t'as un moment un peu comédie musicale.
Mais là, vous dites des trucs juste, non?
On dit des trucs.
Big Lebowski, c'est de la comédie musicale.
Non, je dis pas, mais t'as un passage où il part dans ses rêves et t'as Julianne Moore avec un ciseau géant qui veut le. Parce qu'il a peur de la castration. Et vous voyez pas ce moment? C'est au milieu de Big Lebowski et tout, t'es en mode.
C'est toujours au milieu quand vous savez pas.
Est-ce qu'il faut qu'on considère que les ciseaux c'est des personnages?
T'es vraiment un connard.
Vous avez 4 heures.
Et il y a Brother aussi avec Clooney et tout, toute la petite troupe.
Ah oui,
ouais, ils commencent à chanter. Brother, pardon.
Ouais, carrément.
Oui. Mais ils chantent pas dedans.
Ah si,
ils chantent.
Bien sûr, ils s'enregistrent.
Non.
Si, si, complètement. Ah, c'est après le passage avec les sirènes. Non, je sais pas.
Elle dit n'importe quoi.
C'est vrai qu'il était cool ce film.
Ouais, ouais. Il est
bon,
trop bien.
Bon, les biopics, c'est fait. Allez, on passe à autre chose. Allez, on fera pas ça en 2020.
On fait un petit jeu flash ou pas?
On fait un petit jeu flash?
Je sais pas.
Allez,
tu
vas-y. Allez.
On fait lequel?
Bah, comme tu veux. Vas-y, c'est toi qui.
Franchement, je pense que. Ouais. Le mien, il peut durer genre 5 minutes.
Vas-y.
Ok. Ce que je vous propose, sur le même principe de l'heptapod.
Voilà.
Je vous ai raconté un petit peu. Voilà. En fait, la plupart.
On peut briefer le public. Accrochez-vous, ça va être compliqué.
En gros, les sound designers qui sont. On est d'accord que le cri de Tyrannosaure, il n'y a personne qui a encore vécu, tu vois, pour nous le raconter.
A
donc
priori.
C'est inventé de toutes pièces. Je vais vous proposer 7 sons.
Vous, vous devez inventer des bruits de.
Oh, ça serait génial. On n'a pas le temps là. Mais ça serait génial. Je vais vous proposer 7 sons. D'accord. Il va falloir me dire si c'est fait à base de cris d'éléphant ou d'éléphant de mer.
Oula.
Ou les deux, ou aucun.
Ok, ça reste sur d'éléphant.
Attends, est-ce que quelqu'un a déjà
entendu
un éléphant?
On dirait un sketch des inconnus.
Ah, ça va être bien là, ça va être très très
ouais.
Bien.
Ouais. On va le faire rapidement. On va commencer avec genre le vélociraptor. Alors, je répète, éléphant, éléphant de mer, vous voyez ce que c'est ou pas un éléphant de mer?
Oui,
oui, ouais, c'est comme...
bah oui, oui, oui,
on voit, oui.
Moi, non.
Un gros phoque. Mais
et avec un gros nez,
enfin, ah, ouais, un
énorme. Oui, vous ouais, voyez les bruits que ça fait,
aucune idée.
Oui, grosso modo. Oui, oui, j'ai regardé tous les zappings sauvages.
Ok, okay. Bah alors, on commence par le vélociraptor.
Éléphant de mer.
Éléphant de mer.
Éléphant de mer.
Éléphant de mer.
De ouf.
Éléphant de mer.
Ah, et à la fin,
non, éléphant.
Non, éléphant.
Non, les deux, les deux. C'est les deux.
Les deux, les deux.
C'était aucun des deux.
Non.
Il n'y avait rien. Vous savez ce que c'est, ça?
Voilà.
C'est du coït de tortue.
Non.
Ils ont pris des tortues
non.
Pour coïter pour faire le bruit du vélociraptor.
Qu'est-ce que t'as fait pendant la préparation de cette émission?
Mais je me suis blessée à la jambe, je suis restée 2 semaines à la maison. Donc, 0-0.
Tu sais que tu viens de détruire Jurassic Park, là.
C'est des coïts de tortue.
C'est vrai qu'à chaque fois que tu...
Alors, on passe sur le T-Rex.
Ils seront moins flippants, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ah, et là, peut-être les fonds de mer, là. Éléphant de mer. Nous on dit éléphant de mer.
Éléphant tout court.
Éléphant tout court.
Éléphant de mer.
Ok, un point pour les
filles. Oui yeah.
C'est éléphant, bruit
de la.
C'est lion. Mais on est d'accord qu'on fait random en vrai.
Oui. Par ailleurs, on est d'accord qu'on a des points de ouf nous là.
Eh oui,
ça va.
Et zéro. On passe au diplodocus. Vous allez voir, il y a plus de texture.
Éléphant de mer.
Ouais, nous de toute façon on dit éléphant de mer à chaque fois
éléphant
maintenant.
Éléphant de mer.
Éléphant de mer.
Aucun,
nous, aucun
c'est
des
un
deux.
Lion.
Alors, non, on dit pas ce que c'est.
Non, c'est éléphant.
Éléphant.
Éléphant, il y a de l'alligator, du tigre, des cris de koala et une respiration de baleine. Ah non, mais wow. C'est, ouais, c'est dense.
Là, personne n'avait raison. Point,
ouais. C'est dense, c'est dense.
Bah, tu vois, mon congé de formation, moi, je vais me je vais faire bruteuse maintenant.
Bah, on va rapidement faire, j'en fais deux. Alors, les orques de la Moria. Écoutez, hein. Éléphant de mer ou éléphant?
Ah, c'est fini. Alors, on précise quand même pour les auditeurs qui nous écoutent sur Studio Zef et en podcast, il y a les balances des concerts qui se font en même temps. C'est pour donner un peu l'ambiance. On a demandé voilà. Spécifiquement que ça se fasse en même temps pour bien dire qu'on était à la guinguette.
Voilà, c'est une preuve.
Donc
c'est
là, il preuve. Va falloir deviner parce qu'on ne s'entend plus. Soyons très honnêtes.
Alors, du coup, les orques de la Moria, on va essayer de s'en rappeler.
Ouais. Vous vous souvenez ce qu'ils font
aucun des deux.
Allez, nous on dit éléphant de mer là.
Aucun des deux.
Ouais, c'était éléphant de mer.
Oh, allez, ouais, fallait dire éléphant de mer.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Il y a un moment, ça allait payer oui. L'éléphant de mer.
T'imagines ton taf, ça allait d'enregistrer des éléphants de mer pour Le Seigneur des Anneaux. C'est trop bien. Allez, un dernier. Alors, dans Star Wars, vous savez, les TIE Fighters là.
Ouais.
Ah, on va quand même le mettre.
C'est vrai que sans contexte, on pourrait prendre un
dinosaure. Alors, éléphant ou éléphant de mer?
Aucun des deux, moi je dirais. Nous on dit éléphant.
Éléphant.
Non, c'était éléphant de mer.
Ah, c'est éléphant de mer, il fait ça comme bruit.
Ouais, éléphant de mer avec des bruits de voitures, des pneus qui crissent sur l'eau. Ouais, ce taf est génial, moi je vais démissionner. Ouais. Trop bien. Ouais. Vas-y.
En tout cas, merci Louise, on a appris énormément.
Ouais, ça
chose.
Vous a plu?
Ouais, voilà. Oui, merci ouais. Beaucoup, bravo pour la
allez
préparation.
Allez voir des
jeu.
Vidéos de bébés éléphants de mer, c'est trop mignon, ils font des bruits trop mignons. C'est vraiment chouette quoi. Vas-y, je te laisse enchaîner parce que.
Alors, on enchaîne sur une question un peu plus large. Moi, je vais vous parler de. Pareil, pour s'économiser des émissions, les télécrochets musicaux là.
C'est quoi les télécrochets musicaux?
Mais genre la Star Academy, etc. Et on va se baser sur un des derniers trucs qui marche, Nouvelle École.
Oh.
Et je veux savoir, donc Nouvelle École, c'est une série sur Netflix de rap.
Des auditions de rap, quoi.
Ouais, ouais. Auditions de rap. C'est la nouvelle star des rappeurs.
C'est ça.
Et je voulais savoir quel rappeur français a refusé de participer à Nouvelle École. Et a refusé d'être dans le jury ou d'être dans l'accompagnement.
Booba. Booba.
Non.
Merde.
Alors, peut-être que oui, mais il ne l'a pas dit. Il l'aurait dit.
Joule ?
Non,
Joule,
mais sur.
Il a participé en plus.
On est sur.
Bah, il a participé, ouais, mais juste avec SCH, ouais, genre, ouais, il est pas jury, quoi.
Là, c'est quelqu'un qui a dit non, je viendrai pas, c'est pas ma
ah,
place.
Ah, c'est Damso.
Ah oui,
Damso. Alors, Damso a refusé, il est pas français, il est belge, non, Damso.
Ouais, ah, merde. Il est pas français.
Ah, j'ai vérifié avant, quand même, cette fois.
Merde.
C'est pour ça que j'ai précisé français. Alors là, on est un peu plus old school, il va falloir aller chercher.
Oxmo Puccino.
Non, on est dans cette même.
MC Solar.
MC Solar.
Putain, je vais y dire.
Elles sont bonnes.
Elles sont très très bonnes. T'es forte.
MC Solar, vous. Non, Nouvelle École, vous avez regardé un peu ?
Pas
qui a regardé ?
Oui, très rapidement, je crois que j'ai regardé la moitié d'un épisode. Ouais.
Moi, pareil, je crois que j'ai vu la saison 1.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Bah, alors, moi, du coup, j'ose pas trop dire ce que j'en pense parce que je crois que tout le monde déteste. Moi, j'aime bien, du coup, j'ose pas.
Ah non, moi, la saison.
Clément, il adore aussi.
En vrai, la saison 1, moi, j'ai bien aimé. Est-ce qu'il paraît, la 2, elle est particulièrement ratée, mais.
Ah, bah, je l'ai pas vue, donc je ne sais pas. Mais ouais, non, moi, la saison 1, j'ai bien kiffé. Sûrement parce que je suis un peu amoureuse de SCH. Et
ça joue un peu, ouais.
Ouais, je pense que ça joue. Toutes ces tenues étaient tellement incroyables, pardon.
C'est vrai.
C'est pas le sujet. Mais non, sinon, moi, je sais pas trop pourquoi il y a eu tant de trucs, genre de dire que c'était un peu de la merde et tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bons rappeurs, que le système du truc était cool, que ça m'a fait découvrir des rappeuses que je connaissais pas du tout.
Bah moi je trouve que c'est hyper mal monté, en fait, mal réalisé.
C'est vraiment télévision.
C'est très bizarre.
Mais moi j'ai pas de regard là-dessus.
Non, mais même tu vois, genre dans même l'explication de comment ça marche et tout, c'est un peu random. Ils vont faire des auditions au début, puis après il y a d'autres gens qui débarquent. Et je trouve que c'est un peu feignant sur la manière de faire
les étapes et tout. D'accord.
Et est-ce que, peut-être parce qu'on compare aussi à d'autres télécrochets musicaux, je sais pas si on dit comme ça, mais j'aime bien le dire comme ça, d'autres télécrochets musicaux qui ont peut-être marché, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs dans ce type-là? Genre, est-ce que la Star Academy, ça vous a parlé un petit peu?
Moi-même, c'était très à la mode quand on était ados, quoi, mais moi déjà à l'époque, je regardais pas.
C'est revenu là, non?
Bah là, ouais, c'était grave revenu, mais pour le coup, je saurais pas en parler parce que j'ai pas vu, moi.
Mais... Ok, mais c'est pas grave, on peut ne pas en parler, hein, c'est pour ne plus jamais en parler.
Moi, j'avais pas le droit à la télé, alors.
Pour être sûr qu'on ne fera jamais d'émission là-dessus.
Exactement.
On n'en fera pas.
Maintenant, je pourrais vous dire, bah non, ça, on a déjà fait.
Moi, la Nouvelle Star, j'adorais quand j'étais jeune, mais non, Star Academy récemment, je sais pas ce que ça donnait.
Quand j'étais jeune, elle a 45
ans. Bah ouais, bien sûr. Il y a The Voice aussi, non?
Ouais, mais en fait, il y en a un paquet.
Bah, il y en a plein, ouais.
En fait, personne ne regarde ici.
Non, personne.
Ouais, je crois qu'on s'en fout.
J'ai l'impression quand même qu'il y a des.
On peut cocher dans notre liste, on en a parlé.
Ouais, c'est chouette. Enfin, la qualité, en fait, est cool. Enfin, de ce que j'entends.
Ouais. Ah, moi, j'ai une petite. Ça va être très rapide, quoi. J'ai découvert un truc assez marrant dans le monde du cinéma, parce que, bon, du coup, j'ai pas fait des trucs sur la musique, sur le son. Vous devez me dire, qu'est-ce que. En fait, dans la production audiovisuelle. D'accord, il y a un truc qu'on appelle le groupe Walla ou le Walla Group. Et qu'est-ce que c'est selon vous le Walla Group? Que fait ce groupe?
C'est très compliqué.
Le Walla Group, mais c'est dans
alors,
les films,
c'est dans la production,
c'est des producteurs.
C'est dans les films, c'est dans les émissions de télé, c'est dans les podcasts.
Okay. Mais c'est pas un groupe de production, genre c'est plutôt comme ça qu'on appelle.
C'est, ouais, c'est un type de chose.
Ok.
Voilà,
le Walla Group.
C'est
tous les petits sons qu'on rajoute.
On joue des thèmes en direct.
Non. C'est notamment utilisé sur dans les scènes avec beaucoup de figurants.
Mais c'est pas pour faire les bruits.
On a recours au Walla Group. Groupe Walla quand on doit mettre du son avec des scènes avec des figurants.
Les scènes, les pieds, les bruits.
Ouais, c'est à ça que je pensais.
Les conversations.
Ah, ok, un point.
Yes.
Et qu'est-ce
que je voulais dire, pas grave.
C'est un truc dont on abuse dans le bar à Louisette, c'est les sons de groupe en arrière-plan.
Ouais. Oh, okay.
Et donc on met des gens ensemble, visiblement.
Un peu comme le son en arrière-plan là.
Ouais, voilà, c'est du Walla Group. Ils jouent juste pour nous, pour donner une ambiance. Et ben les Walla Group, c'est pareil, c'est des gens qui sont en groupe et qui disent voilà voilà.
Voilà voilà.
Voilà, ils disent voilà et en Angleterre ils disent quoi déjà? Rhubarb. Donc imagine un groupe genre 100 personnes qui font rhubarb.
C'est une info qui est pas vérifiée, hein, mais ils disent rhubarb.
Pas du tout.
Rhubarb, je l'ai pas vu.
Dans le genre des sons comme ça en arrière-plan, j'ai appris que les radios de police que t'entendais, c'était toujours la même bande qui passe dans les films depuis 30 ans.
Ouais.
Tu sais, quand tu les entends.
Il y a beaucoup de bruit comme ça.
Les cris.
Il y a des cris, en fait, c'est les mêmes. Une fois que tu l'as capté dans tous les films, tu le vois.
Ouais.
Il y a une banque de données, en fait, qui est colossale.
Ouais.
Ok.
Donc voilà, c'était le Walla Group quoi. Ouais,
le Walla Group.
Et on
merci Louise pour encore une fois cette culture absolue. Est-ce qu'on parle un peu de musique de jeux vidéo?
Ouais.
Allez.
Ouais, alors vous allez avoir la ref. Je veux savoir ce que font les trois petits chats dans la comptine d'Adibou.
Oh, Adibou.
Est-ce que vous vous rappelez d'Adibou?
Oui, bien sûr. Bien sûr ouais.
Est-ce que vous vous rappelez des trois petits chats dans Adibou?
Non.
C'est une petite comptine que chante Adibou et c'est trois petits chats qui font des trucs. Je peux vous donner un petit contexte. Les trois petits chats, ils commencent par rentrer dans la maison.
Ah, ils font la cuisine.
Alors non. Il y a un truc dans la cuisine.
Je me souviens pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir l'air de la
cuisine? Ils font la
vaisselle. Trois petits chats. J'ai plus les paroles. Mais...
Non, mais moi, j'ai joué à Adibal.
Voilà.
C'était la version
gratuite. J'ai l'air. Trois petits chats. Putain.
Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la cuisine? Ça rime avec cuisine, d'ailleurs.
De la farine.
Oui,
ils se roulent de la farine.
Exactement.
On sent qu'elle a beaucoup joué à Adibou.
J'adore, j'adore.
Ils se roulent dans la farine et ils finissent tout blanc.
Super la cabine dans les bois. Pas du tout.
Bon, voilà. Il nous fallait un truc pour lancer un peu conversation jeux vidéo, musique de jeux vidéo. Gaët, tu m'as dit que tu avais un peu des trucs là-dessus.
Bah, en gros, la musique de jeux vidéo, c'est un truc qui a vachement évolué avec le jeu vidéo, justement. Faut savoir. Alors, là, le Walla Group, il est quand même, c'est quand même un truc de
ouf. Là, le Walla Group est gênant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu moins fort.
Non, mais juste pour dire que le jeu vidéo, la musique de jeu vidéo a évolué avec le jeu vidéo lui-même, dans le sens où au départ les capacités elles étaient très limitées et on pouvait pas faire des musiques dingues. D'ailleurs, à la base, il n'y avait même pas de place pour la musique et en gros, c'était les programmeurs eux-mêmes qui programmaient les sons. Ce qui fait que tu entendais juste les bips, les machins, notamment dans le jeu Pong que tu as sur Atari 2600. Après, avec la puissance des machines, tu pouvais en fait mettre de la musique, mais dès qu'il y avait du bruitage, tu pouvais pas avoir à la fois les bruitages et la musique. Ouais. C'est-à-dire que la musique de fond, elle s'arrêtait dès que tu avais le bruitage. Et après, avec l'arrivée du CD, tout ça, tu avais beaucoup plus de...
Il y avait pas mal de silence dans ce genre de jeu.
En fait, tu étais obligé de mettre du silence dès qu'il se passait quelque chose. Ouais. Dès qu'il se passait quelque chose, en fait, la musique était obligée de s'arrêter parce qu'il n'y avait pas les capacités de mémoire.
Même sur la Game Boy, je me souviens, quand tu changeais de monde, par exemple dans Zelda, dès que tu changeais de map, tu avais la musique qui s'arrêtait.
Et ben voilà.
C'est parce d'ailleurs, Tomb Raider aussi. Hein. Le 2, il y a très très peu de musique.
Ouais. En fait, avec l'arrivée du CD, justement, ça c'est...
Quand t'as grimpé.
Ah oui.
Attends, et quand on se prenait le mur. Non, c'est toujours le même bruit.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait, pas de musique.
Si, il y a de la musique.
Ah ouais. En fait, avec l'arrivée du CD, justement, là, ils ont pu se libérer vraiment parce que les capacités de mémoire étaient beaucoup plus importantes. Et du coup, là, tu pouvais avoir de la musique, du bruitage en même temps. Okay. Et c'est d'ailleurs avec le CD que tu as vraiment les premiers orchestres qui composaient pour les jeux vidéo.
Parce que ne crois pas que je t'ai pas écouté. Hein. J'étais persuadée que Tomb Raider, il y avait rien.
Les orchestres, tu parlais de Final Fantasy, t'as des BO de Final Fantasy.
Eva Jolie.
Eva Jolie. C'est folle avec les orchestres symphoniques. Non, pas Eva Jolie. Non, mais oui.
Moi, j'ai un bon souvenir de la musique de Medieval. Je sais pas si vous avez joué à ça.
Bah, oui.
Medieval, c'est une espèce de squelette dans un cimetière, un guerrier ressuscité. Et la musique était assez dingue. Elle a été refaite en version orchestre. C'est magnifique, j'écoute ça pour lire ou pour travailler, faites-le.
C'est Danny Elfman qui compose la musique de Medieval, je crois.
Il me semble, oui, mais
je crois que c'est Danny Elfman, moi.
En tout cas, ça y ressemble très fortement. Si c'est pas lui, ça devrait être lui.
Oui.
Oh, et la BO de The Last of Us.
La BO de The Last of Us.
Gustavo Santaolalla, c'est déjà un compositeur en soi. Et vous avez une vidéo dispo sur YouTube où il a fait un spécial live pour PlayStation et vendre le jeu. Et lui, il utilise que des grosses guitares, tu sais, avec une grosse caisse de résonance. Donc c'est vraiment des sons qui, pour la série, il a composé, c'est presque les mêmes sons, quoi. Non, Last of Us, pour moi, c'est le meilleur bon son, quoi. Tristoun, mais ça fonctionne.
Bon, étant donné que le son doit être quand même assez pénible à écouter, on va peut-être pas abuser de l'antenne. On refera pas le Walla Group.
Non, c'était une mauvaise idée. on est resté prétentieux, on n'a pas besoin de bruitage. Bon, on va rester sur notre bruitage habituel de bar, quoi.
Donc, vous pouvez rester branché sur studiosf.fr si vous voulez profiter du live qui va être retransmis sur la radio.
Sinon, vous bougez vos petits culs jusqu'à la Creusie.
Voilà.
Profitez des concerts.
Si vous êtes sur
Blois.
Après, on a une audience internationale, donc peut-être ça va être compliqué de venir, mais
ceux
qui sont sur Blois, mais ils sont déjà dans le public.
Mais chez vous, il n'y a plus de siège, il n'y a plus de place, là.
Bon, on rend l'antenne, on se retrouve à la rentrée quand même.
Oui.
Parce qu'on va faire une petite pause estivale bien
méritée,
saison 4.
Saison 4. Donc à la rentrée, on fait un truc un peu déprimant ou pas? Non. Noël, on fait Noël en septembre.
Non.
Mais je crois qu'on a une émission prévue plus ou moins sur la mort en octobre. Donc,
on en reparlera prochainement pour le rendez-vous de l'histoire, mais on est dessus quoi.
Après voilà. La dépression, la mort, je veux dire, c'est bien quoi. C'est cohérent.
Attends, non mais les mecs, la vie et la mort, sérieux. Coucou.
On vous tient au courant à la rentrée.
Yes, c'est ça. Ouais. Bel été à tout le monde.
Allez, ouais,
l'été. Salut. Bonnes vacances.
Salut la bande.
Mettez de la crème solaire.
Mangez des pommes.